France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Christine Anger, Sacha Mattei et Gwendoline Troiano, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le dernier volet de notre série consacrée au désir de changement politique en Afrique australe après le Mozambique hier, le Botswana mardi et les Comores lundi qui appartiennent davantage au grand monde de l'océan Indien. On parle ce matin de l'Afrique du Sud où l'ANC, parti héritier de Nelson Mandela, a dû composer une coalition après avoir perdu une bonne partie de ses électeurs.
ANC is good. But it's the people who are there in the ANC.
L'ANC est un bon parti, mais les gens qui le dirigent ne pensent qu'à se remplir la panse. Ils n'en ont rien à faire du peuple.
Je pense que c'est une très bonne journée pour l'Afrique du Sud. Quand j'ai dit que demain serait un jour meilleur, eh bien ce jour est arrivé. Nous disons depuis 30 ans que le seul moyen de sauver l'Afrique du Sud, c'est de briser la majorité de l'ANC. Nous venons de le faire.
Les électeurs n'ont donné à aucun parti un mandat pour gouverner seul le pays. Ils ont exprimé aussi sans équivoque leur déception et leur mécontentement concernant notre travail dans des secteurs où nous avons échoué.
C'est précisément ce que nous disait Miguel Bonnefoy dans notre série « Les écrivains racontent le monde », cette difficulté à concevoir que la corruption puisse naître dans le terreau des révolutions, nourrie par ceux qui l'ont pourtant combattue, que ce n'est pas seulement une pomme pourrie poussant dans l'arbre du capitalisme, une peste qui ne rongerait que les peuples ayant vendu leur âme au diable. En Afrique du Sud, le parti ANC a longtemps été porté par son combat contre l'apartheid et pour la redistribution des richesses et des terres à la population noire. Pendant 30 ans, le parti Nelson Mandela a présidé au destin du pays, mais d'artisans de la réconciliation nationale, ses chefs sont devenus peu à peu des dirigeants rompus au clientélisme, à la prédation et aux affaires de corruption. Le 29 mai dernier, l'ANC a payé les conséquences de ces multiples scandales. Il n'a pas réussi à rassembler une majorité absolue lors des élections générales, obligé de composer un gouvernement de coalition avec son opposant historique, le parti AD, pour Alliance démocratique. Le président Cyril Ramaphosa l'a dit lui-même, le parti traverse une crise existentielle. Cette crise et cette obligation à trouver des compromis peuvent-elles profiter aux Sud-Africains dont les plus jeunes n'ont plus de rapport affectif à l'ANC? Bonjour Cécile Perrot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Rennes 2. Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Alors Thierry Vircoulon, puisque cette discussion s'inscrit dans une série sur le désir de changement en Afrique australe, comment mesurer la désaffection pour le parti qui dirige l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, le Congrès national africain, ou ANC, qui a tout de même remporté les élections l'année dernière, est-ce qu'il est en si grande difficulté qu'on le dit ?
Oui, on peut mesurer cette désaffection ou le déclin, tout simplement, de l'ANC en regardant sa trajectoire électorale depuis 1994. En fait, il a une trajectoire ascendante de 94 à 2004, donc pendant 10 ans, puisqu'il arrive au pouvoir avec 62% des suffrages, et il fait son record électoral en 2004 avec 69%. Et à partir de 2004 jusqu'aux dernières élections, donc l'année dernière, donc en 20 ans, il n'a cessé de décliner régulièrement et il a fini par tomber à 59% en 2019 aux élections qui ont porté au pouvoir Cyril Ramaphosa, et puis là il est passé sous la barre des 50% et donc pendant la présidence de Cyril Ramaphosa en 5 ans il a perdu 17 points, ce qui est énorme, mais sa chute a été régulière et on a vu aussi aux élections municipales, on a vu l'ANC perdre le contrôle de plusieurs grandes municipalités dont la plus grande qui est Johannesburg. Johannesburg, dont ils ont perdu le contrôle en 2021. Bon, après, ils l'ont plus ou moins récupéré, etc. Mais en tout cas, ce déclin électoral a été extrêmement régulier sur 20 ans. Et c'est à cette élection, à la dernière élection, qu'ils sont passés sous la barre des 50%. Et donc, ils ont perdu la majorité au Parlement.
Ils ont perdu 71 sièges. Et ces élections datent du mois de mai 2024, de l'année dernière. Mais ce n'est que samedi dernier que le président Cyril Ramaphosa a fait sa première déclaration au nom du parti.
The ANC is facing a crisis of authority, of legitimacy and trust.
L'ANC traverse une crise d'autorité, de légitimité et de confiance. Certains dans notre pays voudraient déjà écrire la nécrologie de l'ANC.
The ANC has prevailed in the face of existential.
Mais l'ANC a déjà surmonté des crises existentielles par le passé. N'oublions pas que beaucoup des formations politiques actuelles ont été créées par des anciens de l'ANC.
Une référence que fait là Cyril Ramaphosa à ce parti qui vient d'être créé, le MK de Jacob Zuma, qui est arrivé troisième, qui a remporté 49 sièges et qui n'est autre que l'ancien président Thierry Vircoulon. Donc il y a eu une sorte de désir de changement qui s'est exprimé, mais les votes se sont reportés sur un ancien président qui a gouverné de 2009 à 2018. Il y a plus iconoclaste comme choix.
Oui, alors son parti nouvellement créé est arrivé troisième dans la dernière élection. Il y a un autre parti qui est arrivé second qui s'appelle l'Alliance démocratique. Mais en fait, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est qu'il y a à la fois donc une crise socio-économique. Il y a trois crises enchâssées. Il y a une crise socio-économique, avec à l'intérieur une crise politique et puis une crise du parti de l'ANC. Et en effet, la lutte entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa illustre quelque chose qui se passe régulièrement dans l'ANC, c'est que quand le leader du parti change, celui qui était à sa place ou qui veut être à sa place, rompt avec le parti, crée sa nouvelle formation politique et ça devient les deux meilleurs ennemis publics du pays. On a vu ça avec la création de COP quand Jacob Zuma est arrivé au pouvoir et donc a mis dehors le clan Mbeki, Thabo Mbeki et ses supporters qui, à ce moment-là, avaient formé ce parti qui s'appelait COP. On a vu ça aussi avec Julius Malema en 2013, qui était le leader des jeunes de l'ANC et qui a fait sécession et qui a fondé son propre parti, les Economic Freedom Fighters.
Et les combattants pour la liberté économique, on la considère comme la gauche radicale.
Voilà, exactement. Et puis, avec Jacob Zuma, quand il a été poussé dehors par Cyril Ramaphosa. Et donc maintenant, ce sont les meilleurs ennemis. Et donc, on voit qu'il y a une factionnalisation du parti. Et c'est pour ça qu'il y a une crise, que je disais, il y a une crise du parti de l'ANC, puisqu'au fur et à mesure de ses problèmes, de sa perte, de son déclin électoral, les tensions internes augmentent et donc il y a des scissions régulières.
Une crise politique, des fractures internes au parti qui se mêlent, disiez-vous Thierry Vircoulon, à des problèmes économiques et sociaux qui exaspèrent la population sud-africaine. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée, Cécile Perrot, alors vous n'êtes pas politiste ni géographe du vote, entre guillemets, mais sur la cartographie électorale, la géographie électorale en quelques mots, ou la sociologie électorale, qui sont ceux qui ne votent plus pour l'ANC ?
Alors, il y a énormément de gens qui se sont détournés de l'ANC avec des profils très divers. Les sujets de tension en fait autour du bilan de l'ANC étaient très nombreux avant les élections de 2024. Il y avait bien évidemment la lenteur de la redistribution des terres qui a été évoquée précédemment, le problème du taux de chômage endémique, et un sujet qui a particulièrement cristallisé les débats aussi au moment des élections, c'était la forte dégradation de la qualité des services publics au cours des 15 dernières années. Une dégradation qui a non seulement inversé la dynamique de réduction de la pauvreté, mais qui participe au renforcement des inégalités socio-économiques dans le pays, et du coup génère de la colère chez bon nombre de Sud-Africains.
Beaucoup de jeunes notamment qui n'ont pas connu l'apartheid, qui associent davantage l'ANC à la corruption plutôt qu'à la réconciliation nationale et qui l'associent aussi aux coupures de courant, ces délestages auxquels on ne s'habitue jamais vraiment, comme le dit ce commerçant de Soweto et un agent de police municipale.
We are fortunate that we have invested in a generator, but J'ai la chance d'avoir pu investir dans un générateur, mais ça me coûte de plus en plus cher. Il tourne à l'essence et le prix du pétrole augmente.
Sans électricité, les gens ont peur d'emprunter les routes la nuit. L'obscurité est totale au carrefour juste derrière moi. Les gens se font dépouiller dans les embouteillages, voire même se font voler leur voiture. C'est devenu un point de rendez-vous pour les gangs. C'est aussi une question de sécurité et c'est l'un des enjeux majeurs pour nous ici.
Alors vous qui travaillez, Cécile Perron, en particulier sur les services publics en Afrique du Sud, de quelle façon touche-t-elle les populations au quotidien? Et surtout, est-ce que certaines réussissent à en échapper, ont les moyens de trouver, d'élaborer, comme on dit, des stratégies d'évitement?
Oui, et c'est en cela que ce phénomène va renforcer les inégalités socio-économiques, parce qu'il y a deux réactions à cette dégradation des services publics. D'une part, la colère. Il y a un certain nombre de gens qui vont manifester. On a vu la multiplication des accès de colère, des manifestations publiques. Et de l'autre bord, pour ceux qui le peuvent, qui peuvent se le permettre, il y a un évitement, une fuite des services publics. Et très récemment, il y a eu une étude publiée par Stats SA, qui est l'équivalent de l'INSEE français, et qui montre que depuis 2020, il y a eu une fuite des services publics, enfin des Sud-Africains qui recourent aux services publics à peu près dans tous les domaines, que ce soit les transports publics, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Environ, on voit une diminution de moins 7 à moins 10% d'utilisateurs de ces différents services. Et en fait, ça démontre le fait que quand ils peuvent, les Sud-Africains vont se tourner vers une offre privée. Dans le domaine éducatif, par exemple, on a vu une augmentation alors du secteur privé qui reste minoritaire mais qui atteint 5%. Des écoles et qui est en croissance. Et puis, on a aussi vu une augmentation du nombre d'enfants scolarisés à domicile, qui est aussi une façon d'éviter les écoles publiques.
C'est un enseignement à domicile ou ce sont des aides aux devoirs? Parce que ce sont des sociétés qui proposent des aides aux devoirs officiellement.
Oui, officiellement, c'est le cas. On l'évoquera peut-être plus tard, mais c'est d'ailleurs quelque chose auquel s'attaque une nouvelle loi que vient de passer le gouvernement d'unité nationale. Mais c'est en fait une façon détournée d'avoir des écoles hors du contrôle de l'État. Et ces fameuses aides aux devoirs représentent en fait des journées complètes de cours.
L'enseignement à domicile fait par des sociétés privées. Thierry Vircoulon, il y a aussi en ce moment à Johannesburg une crise de l'eau. Certains quartiers dont les robinets sont à sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe exactement à ce...
Oui, alors ce qu'on appelle la water crisis en Afrique du Sud a commencé il y a quelques années. Alors avec la ville du Cap, où à un moment on a parlé d'un jour zéro, c'est-à-dire où il y aurait plus les réserves d'eau, ne permettraient plus d'alimenter la population du Cap. Bon, ça n'a pas eu lieu finalement, mais en fait, ce qui se passe à Johannesburg et dans les grandes métropoles sud-africaines, c'est que le réseau d'eau, qui est la responsabilité des municipalités, n'a pas été correctement entretenu, il y a eu des sous-investissements majeurs qui s'inscrivent dans ce dont parlait Cécile Perrot, c'est-à-dire la crise généralisée des services publics. Et cette crise a commencé par l'électricité et maintenant elle continue avec l'eau. Bon, l'eau et l'électricité, c'est évidemment deux services qui sont combinés puisqu'il faut de l'électricité pour avoir de l'eau. Et donc cette water crisis est aussi l'autre symptôme de la crise des services publics, d'un sous-investissement et d'une très mauvaise gouvernance des services publics. Ce qui est un vrai problème en Afrique du Sud, parce que la promesse de l'ANC quand ils sont arrivés au pouvoir en 94, c'était de faire le développement de la majorité noire grâce à l'extension des services publics. Et donc ces services publics se sont étendus, mais en même temps ont été extrêmement mal gérés, comme je le disais. C'est pour ça que la crise des services publics est un très très gros problème politique, parce que c'était au cœur de la promesse de l'ANC.
Avec une question de mal gouvernance, la compagnie publique d'électricité sud-africaine, Eskom, disait il y a 2 ans que la corruption lui coûtait 55 millions de dollars par mois, que les délestages, les coupures d'électricité, c'était aussi un symptôme de cette corruption, très largement étudiée, dénoncée, ce système de relations interpersonnelles qui semble enraciné au sein de l'ANC, avec récemment encore un scandale de détournement des fonds alloués à la lutte contre le Covid, donc en violation totale au droit de tous à la santé, à l'alimentation, à l'eau. D'après Corruption Watch, plus de 90% des contrats étaient pleins d'irrégularités. Et pendant ce temps, les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes n'ont pas d'argent et ne trouvent pas d'emploi sur le marché du travail.
Pour moi, l'Afrique du Sud est devenue comme le Zimbabwe. Nous allons devoir fuir et mettre nos compétences au service d'autres pays. Car notre gouvernement ne se soucie pas des étudiants et de leur avenir. Et en fin de compte, les diplômés rentrent chez eux, ils restent assis à ne rien faire dans les banlieues. Moi, j'en veux au gouvernement.
Un jeune Sud-Africain rencontré par Africa News, Cécile Perrault, si les jeunes Sud-Africains votent moins, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le taux de participation a aussi considérablement baissé aux dernières élections, avec 59% des inscrits, c'est une baisse de 7% par rapport aux précédentes élections générales. Est-ce que néanmoins, les jeunes, est-ce que vous pensez qu'ils se désintéressent de la politique, de ce qu'ils vous en disent ?
Se désintéresser de la politique, non, je ne pense pas. Il se manifeste politiquement différemment. On a vu régulièrement, par exemple, sur les campus, alors c'est une part particulière de la jeunesse sud-africaine, mais la jeunesse étudiante qui se manifeste régulièrement sur les campus, qui organise des sit-ins, qui de façon à dénoncer le manque de moyens, les frais de scolarité, le taux de chômage. Donc on a une forme d'expression politique, une envie de représentation, mais pas sur des formes classiques. Il y a un désintérêt qui est par contre assez marqué pour les partis politiques. Et même MK et IFF...
C'est de nouvelles formations.
Voilà. Alors, ils arrivent plus à parler aux plus jeunes Sud-Africains, mais on ne voit pas non plus un enthousiasme de masse de la jeunesse sud-africaine pour ces partis.
Donc il faudra voir à quoi ce que réussit à faire cette grande coalition qui s'est mise en place à l'issue des élections. On le rappelle, l'ANC n'a pas obtenu de majorité absolue. Il lui a donc fallu composer avec son allié toujours, en fait. Comment ça s'appelle ? L'Alliance démocratique. Voilà, l'AD, ce sont ses opposants historiques. À l'origine, tous les opposent. Thierry Vircoulon, qu'est-ce que ce parti, l'AD ? En quoi est-ce que, pour des personnes qui suivent l'Afrique du Sud comme vous depuis longtemps, ça peut paraître, cette coalition a pu paraître peut-être un peu saugrenue au premier abord.
Oui, l'Alliance démocratique, c'est le principal parti d'opposition en Afrique du Sud. Il a été créé au début de ce siècle et en fait, sa base électorale, c'est la communauté blanche et la communauté métisse. Et donc, il a immédiatement pris le contrôle de l'endroit où ces communautés sont les plus concentrées, c'est-à-dire la province du Western Cape et la ville du Cap. En fait, il avait dès le début comme objectif d'étendre cette base électorale aux communautés noires et notamment à la classe moyenne noire. Et quand on regarde ces scores électoraux donc depuis 20 ans, on voit que autant le déclin de l'ANC a été régulier, autant la progression de l'Alliance démocratique a été laborieuse, puisqu'ils ont atteint aux élections de 2024 22%. Alors 22%, ça en fait le deuxième parti du pays, mais c'est pas non plus énorme.
Ça veut néanmoins dire qu'ils n'ont pas que des électeurs blancs, parce que les blancs en Afrique du Sud, c'est quoi, 7-8%
oui, alors, la population blanche. Ils ont réussi à dépasser un peu leur base électorale historique, mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif qui était 30%. Et donc qui signifiait que, en fait, la majorité de leurs électeurs, la très grande majorité de leurs électeurs auraient été noirs. Et donc là-dessus, leur progression est assez, dans ces communautés, leur progression est assez difficile. Et donc ils sont maintenant le deuxième parti du pays. Ils ont un programme qu'on pourrait qualifier sur le plan économique de libéral, et évidemment ils sont très critiques sur les grandes politiques de l'ANC, la réforme foncière, les restitutions foncières, mais aussi évidemment la gouvernance du secteur public, puisque en Afrique du Sud, et l'ANC a conservé ça, il y a historiquement un très grand secteur public, et l'Alliance démocratique veut introduire de la privatisation dans ce secteur public. Donc il y a beaucoup de sujets qui les opposent, et malgré cela, et la surprise de beaucoup de monde, y compris dans leur électorat, eh bien, ils ont fait une alliance après les élections de l'année dernière. Donc, l'ANC avec ses 42% et puis l'Alliance démocratique avec ses 22% ont finalement fait une alliance qui n'est pas d'ailleurs, où il y a quelques micro-partis aussi. Il y a 4 ou 5 micro-partis qu'on retrouve dans cette alliance et qui apportent quelques sièges du Parlement.
Qui permettent à l'ANC de moins dépendre de l'Alliance démocratique. Comment se sont passés les tractations pour former une coalition? Est-ce que l'ANC avait perdu cette science du compromis qu'elle avait dû mettre en place juste après l'apartheid, puisque juste après l'apartheid, le premier gouvernement de coalition, c'est 94, avec l'ancien parti de l'apartheid, le National Party de Frédéric de Clercq. Donc il y a quelque chose que l'on connaît plus ou moins dans cette situation, mais est-ce que ça s'était perdu en plus de 20 ans?
Bah, premièrement, c'est une configuration politique qui est tout à fait inédite dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Parce que l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est l'histoire d'un parti qui est toujours en situation de surdomination du champ politique. C'était le cas pendant l'apartheid, avec le Parti National qui dominait complètement le champ politique. Et puis, à part la courte période de transition dont vous avez parlé à la fin des années 90, l'ANC a été en situation de surdomination du champ politique. Donc là, ils se sont forcés, après les élections de l'année dernière, de rentrer dans une configuration politique qui est nouvelle, qui est assez inédite pour eux. On voit d'ailleurs la similitude avec la situation française, hein, où tout d'un coup, il n'y a plus de parti majoritaire. Et donc, il faut faire une alliance. Alors, contrairement à la France, les négociations sont faites assez rapidement entre l'ANC et l'Alliance démocratique. Et
notamment, un mois, hein, pour s'entendre. C'est pas si long.
C'est pas si long, surtout quand on voit les différences qu'il y a dans leur programme politique, hein, qui sont quand même énormes. Et donc, il y a eu cette alliance au niveau national que Cyril Ramaphosa a encore du mal à justifier devant les militants de l'ANC. Lors de son discours de janvier, de rentrée traditionnelle là, qu'il a fait en janvier, que vous avez passé au début, il a expliqué aux militants de l'ANC que dans l'alliance, c'était l'ANC qui commandait et que c'est l'ANC qui reste aux commandes, et donc il n'y a pas d'inquiétude, on est toujours au pouvoir et on est toujours ceux qui font les décisions. Par contre, du côté de l'Alliance démocratique, ça a été plus simple pour John Steenhuisen, qui est son leader, de convaincre son électorat, même s'il y a eu beaucoup de surprises. Maintenant, évidemment, la question, c'est combien de temps ce gouvernement de coalition peut tenir et que peut-il faire? Et donc, on voit aussi les similitudes avec la situation française.
Oui, alors la différence aussi avec la France, c'est que l'Afrique du Sud dispose de tout un arsenal de dispositifs constitutionnels, légaux, réglementaires pour faciliter la formation d'un gouvernement d'union ou d'ouverture, et tout ça, c'est encore un héritage de 94. Néanmoins, comme vous dites, depuis très longtemps, l'ANC était hégémonique sur la scène politique sud-africaine. Alors, pour rassurer certains de ses membres qui sont très, très méfiants de cette alliance avec l'Alliance démocratique, ce parti opposant depuis toujours. L'ANC dit, mais regardez, on a cédé que quelques postes importants de ministère à l'ANC, l'éducation, l'intérieur et l'agriculture. Bon, c'est pas rien. Néanmoins, Cécile Perrot, que l'éducation et l'agriculture d'abord. Un poste très politique en Afrique du Sud avec la question de la redistribution des terres de grands propriétaires blancs à la population noire.
Oui, et là, Ramaphosa a probablement démontré sa capacité d'équilibriste pour essayer de maintenir une forme d'équilibre au sein du gouvernement national, parce que si l'agriculture est allée à l'Alliance démocratique, on a sorti de ce portefeuille la réforme foncière qui, elle, a été donnée à un ministre de la PAC. On a deux ministres qui sont en fait complètement opposés sur la question de ce qu'il faudrait faire en termes de réforme foncière.
Donc pardon, qu'est-ce que c'est la PAC ? Excusez-moi, parce que nous, en Europe, la PAC, c'est aussi de l'agriculture, mais je pense que c'est pas la même chose.
Non, c'est le Pan-Africanist Congress, donc c'est un parti situé plutôt à gauche et du coup qui est en faveur d'une redistribution beaucoup plus musclée des terres, qui estime que ça va beaucoup trop lentement aujourd'hui en Afrique du Sud. Et à l'autre bord, l'Alliance démocratique qui dit, en fait, la priorité aujourd'hui, c'est la croissance économique. Et entamer une réforme foncière serait facteur de déséquilibre pour le pays. Et du coup, on a vraiment deux ministres qui tiennent des positions radicalement opposées sur ce sujet, qui est effectivement éminemment politique. Et en même temps, énormément de Sud-Africains qui attendent une action en termes de réforme foncière qui est vue quand même comme au cœur des inégalités et de l'injustice entre les différents groupes de population.
Parce que les trois quarts des terres agricoles du pays sont propriétés de la communauté blanche qui, elle, ne représente que 7% de la population. Thierry Vercoulon, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est la raison pour laquelle le leader de l'Alliance démocratique a le portefeuille de l'agriculture, c'est en effet le fait que ce secteur, comme vous le dites, est un secteur très important pour la communauté blanche, mais surtout la communauté africanaire rurale, qui pour lequel c'est quand même quelque chose d'essentiel à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan symbolique. Et donc, il était important pour lui qu'il obtienne le portefeuille de l'agriculture.
Et même si l'ANC a pris soin de créer un autre ministère annexe pour les questions foncières et la répartition des terres, Cécile Perrot, vous nous parliez tout à l'heure de l'éducation, en évoquant très rapidement une loi qui est passée en décembre sur l'éducation. Il se trouve que l'éducation est un autre ministère que l'ANC a cédé à son opposant de l'Alliance démocratique. Sur quelles questions l'ANC et cette rivale historique paraissent irréconciliables et surtout sur quoi sont-elles entendues, puisque cette loi, c'est le débouché d'un compromis, a priori.
Oui. En fait, il y a trois mois, le président a annoncé qu'il allait mettre en place une loi qui est considérée comme la réforme la plus importante apportée au système éducatif depuis 1994. Donc vraiment quelque chose une réforme assez majeure, qui s'attache notamment à redonner au gouvernement les moyens de réduire les inégalités d'accès et de traitement entre les élèves issus de différents groupes ethniques. Donc il y avait cette volonté de lutter contre un système à deux vitesses et au moment de l'annonce, ça a créé de fortes tensions avec l'Alliance démocratique. Notamment autour de la question de la langue. La nouvelle loi indique que les écoles n'auront plus le droit de définir elles-mêmes la langue d'enseignement, mais qu'elles devront avoir l'accord du ministère de l'Éducation. Or, c'était une façon pour notamment la communauté africaineur de garder la main mise et d'exclure une part importante des élèves qui ne parlent pas afrikaans, et d'où aussi la réaction du parti qui a dit mais non, ça va à l'encontre de notre liberté, c'est un droit constitutionnel que de pouvoir parler notre langue et d'avoir un enseignement en afrikaans. Donc il y a eu énormément de tensions autour de cette loi. Cyril Ramaphosa a joué un peu la montre, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit au mois de septembre, on va ouvrir des débats et dans trois mois, la loi sera signée si on n'est pas parvenu à un compromis ou si on parvient à un compromis, on modifiera certains éléments. Et en fait, au bout de trois mois, la loi a été signée. Et l'Alliance démocratique, au final, s'est déclarée satisfaite avec la loi éducative. Et donc ça montre aussi tout le caractère très très de négociateur du président.
La personnalité de Cyril Ramaphosa lui-même, au-delà de son appareil partisan, c'est ça ? Des structures de l'État.
Oui. Qui fait écho au fait que c'est qu'il avait été reconnu comme un habile négociateur au moment de la transition de 90 à 94, quand il était tout jeune et il avait joué une part importante lors des négociations de la transition post-apartheid. Et là, on retrouve cette capacité à trouver un équilibre entre des positions apparemment irréconciliables.
Et oui, c'est la ministre issue de l'Alliance démocratique, la ministre de l'Éducation, qui a accepté cette idée que d'autres au sein de son parti considéraient comme une atteinte aux libertés fondamentales, donc faire en sorte que l'État puisse avoir un droit de regard sur la langue dans laquelle sont enseignés les cours dans les écoles en Afrique du Sud. Thierry Vircoulon, en 8 mois de travail, maintenant, quelles autres mesures, réformes sont parvenues à conclure les membres de ce drôle d'attelage, cette coalition hétéroclite, ou sur lesquels ils sont en train de travailler, qui vous paraissent plutôt porteurs d'espoir ?
Pas grand-chose, justement, et c'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a une coalition gouvernementale, mais pour faire quoi ? Comme le disait Cécile, il y a des positions très divergentes. Évidemment, tous les deux, que ça soit le leader de l'Alliance démocratique ou Cyril Ramaphosa, disent que ce qui est le plus important, c'est de résoudre la crise des services publics. Et de nettoyer les écuries d'Augias, en quelque sorte, c'est-à-dire de lutter contre la corruption. Le problème, c'est que Cyril Ramaphosa a été élu en 2019 pour faire ça, justement, après la longue présidence de Jacob Zuma, qui avait été émaillé de très grands scandales de corruption. Cyril Ramaphosa avait été élu pour nettoyer les écuries d'Augias, et il n'a pas pu le faire, parce que c'est son parti qui est structurellement corrompu.
Mais là, est-ce que le fait, justement, d'être en coalition et avec l'Alliance démocratique et avec cette constellation de petits partis que vous évoquiez tout à l'heure, ça ne peut pas introduire une forme d'autocontrôle ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les ministres de l'Alliance démocratique disent qu'en effet, ils ont l'intention de lutter contre la corruption, et notamment celui qui est à la tête de ce qu'on appelle là-bas le Home Affairs, qui serait notre ministère de l'Intérieur sans la police, qui est un ministère qui est très corrompu depuis très longtemps, et dont il a dit clairement, quand il a pris les commandes du ministère, qu'il avait l'intention de nettoyer ce ministère. Donc on va voir s'il va y arriver, parce que c'est la lutte anticorruption, c'est quand même assez compliqué. Mais il faut aussi noter dans cette situation de coalition que 60% des postes ministériels sont à l'ANC, et notamment les plus importants, défense, justice, police, affaires étrangères, énergie, finance. L'alliance, elle est évidemment déséquilibrée. Les micro-partis ont des micro-postes, comme il se doit, mais l'alliance est déséquilibrée. Et donc, d'une part, on voit pas trop comment des réformes majeures pourraient créer un accord, comment il pourrait y avoir un consensus entre l'Alliance démocratique et puis l'ANC sur des réformes majeures pour justement résoudre la crise des services publics et puis relancer l'économie, parce que comme je le disais, il y a la question de la privatisation d'un immense secteur public. Et puis, il y a aussi beaucoup de désaccords alors qui concernent la politique intérieure, mais qui concernent aussi la politique étrangère, où là aussi ils sont très très éloignés.
Notamment, on sait que c'est l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de justice sur la guerre à Gaza. Est-ce que sur un sujet aussi important, la politique internationale, l'Alliance démocratique le suit ?
Ah non, pas du tout. Ils sont complètement opposés sur le dossier palestinien. Ils sont complètement opposés sur le dossier ukrainien aussi, où l'ANC est quand même très proche de la Russie. En 2023, l'Afrique du Sud a fait des exercices navals avec la marine russe. En novembre, il était prévu qu'une escadrille russe se pose en Afrique du Sud, ce qui avait suscité un certain émoi. Une escadrille de bombardiers stratégiques russes, et finalement ça n'a pas été fait. Je pense qu'il y a eu des pressions assez importantes. Donc sur des grands dossiers de crise internationale, ils sont très séparés. Et surtout, il faut bien, et je pense que ça c'est le problème principal de Cyril Ramaphosa, c'est que compte tenu des tensions à l'intérieur du parti et du factionnalisme, il y a une alliance nationale avec l'Alliance démocratique, il n'y en a pas au niveau provincial et local. Et au niveau provincial et local, en fait, les branches de l'ANC continuent à lutter contre l'Alliance démocratique et à ne pas vouloir faire d'alliance avec elle. C'est par exemple le cas dans le Gauteng, la province du Gauteng à Johannesburg. Et puis aussi, ils ont même fait destituer le maire à l'Alliance démocratique de Pretoria, la capitale du pays, en octobre. Et ils ont préféré monter une alliance avec d'autres partis pour gouverner Pretoria. Et pour la Gauteng, qui est la première province du pays, ils ont fait la même chose. Ils ont dit, il n'est pas question de faire une alliance avec l'Alliance démocratique. Et on va faire un gouvernement provincial avec d'autres.
Alors que l'Alliance démocratique, ses résultats au niveau local, quand elle est au pouvoir dans certaines municipalités, sont plutôt reconnus, réputés, le fait que les municipalités sont plutôt stables financièrement, les provinces de la ville du Cap et du Cap occidental. Qu'est-ce que le programme va devenir au niveau national? Et vous évoquiez, Thierry Vercoulon, cette idée de privatiser de nombreux services publics. Pour l'instant, Eskom, l'énergéticien Eskom, l'entreprise sud-africaine d'électricité que je citais tout à l'heure, a l'air de dire qu'elle a beaucoup moins de problèmes depuis quelques mois. C'est pas lié directement aux élections, ça date d'un petit peu avant, mais qu'il y a beaucoup moins de délestage. Cécile Perrot, est-ce que vous pouvez entendre, est-ce qu'on vous rapporte quand même quelques améliorations, des indicateurs encourageants au moins, qui seraient ou pas liés directement à cette coalition?
Oui, alors les signes d'amélioration, ils se multiplient, même si, bien entendu, pour ce qui est des services publics et d'un travail sur les infrastructures et une modernisation des infrastructures, on s'inscrit bien évidemment plutôt dans le long terme. Donc, on peut pas réellement dresser un bilan aujourd'hui. Néanmoins, on sent un réel optimisme chez les Sud-Africains. Par exemple, si on en croit les sondages Ipsos là qui sont faits tous les mois, 40% des Sud-Africains aujourd'hui pensent que la situation du pays s'améliore, alors qu'il n'était que 20% à le penser en mai dernier.
Donc les sondages mesurent l'espérance aujourd'hui. Ils savent mesurer l'espérance.
Et effectivement, il y a quelques signaux concrets d'amélioration. Vous évoquiez Eskom et effectivement, c'est assez drôle d'ailleurs de voir sur leur site comment ils se réjouissent de n'avoir pas mis en place de délestage et de coupure d'électricité depuis plus de 9 mois.
Mais comment est-ce qu'ils ont réussi ça d'ailleurs? Est-ce que c'est pas la coalition, c'est des barrages hydroélectriques qui ont été construits? Enfin, comment ont-ils pu réussir ce qu'on leur demande de faire depuis des années?
Alors, ils ne s'étendent pas sur les raisons qui leur ont permis de gérer cette crise. Peut-être aussi une réduction de la corruption au niveau de l'entreprise, une meilleure gestion des infrastructures existantes. Ce qui est certain, c'est que l'entreprise a annoncé qu'elle ferait des bénéfices en 2025, ce qui est une première en 8 ans. Donc c'est un signe d'amélioration. De la même façon, sur le plan de l'eau, il y a eu une multiplication des annonces de construction de nouvelles infrastructures, des barrages comme celui de Umkomazi au KwaZulu-Natal. On a une dynamique positive. Même si les répercussions du sous-investissement dans les infrastructures vont se faire ressentir au long cours, ça c'est certain. Mais il y a quelques signaux positifs et qui sont perçus comme tels par la population. Et on le voit voilà, dans les sondages.
Et c'est peut-être ce que racontera à sa mère ce rappeur sud-africain Ifani, qui écrivait à sa mère cette lettre en chanson en 2014.
Zalene ngoma zimnandi, zalene ngoma zimnandi, zalene ngoma zimnandi, umamthembu uthanda ngoma zimnandi, ndikhule eBlawa, ndikhule ndingamazi utata, umakhulu wami, ndikhule ndimubiza umama, undikhulisile umama, ewe undifundisile umama, ndigeza embetha, ngezandla undilungisile umama,
zange ndalubona uthando lunje njengalakho mamthembu abantu bendibona mnandi nje uthando lakho mamthembu ndikhule ndikufundela mama ndisithi ndizakubulela mama ndisithi ndizakuculela mama izulu kodwa lakhetha ukuthatha so ndiyakucela yesu uzumgcina umama xeseli nawe uzumdlalele ingoma ezimnandi ndiyakucela bawo uzumgcina umama xeseli nawe uzumdlalele ingoma ezimnandi uzumdlalele ingoma ezimnandi uzumdlalele ingoma ezimnandi uzumdlalele ingoma ezimnandi umamthembu uthanda ingoma ezimnandi uzumdlalele ingoma ezimnandi uzumdlalele ingoma ezimnandi uzumdlalele ingoma ezimnandi umamthembu uthanda ingoma ezimnandi.
Ifani et sa Ingoma Ezim Nandi, sa douce chanson qu'il dédie à sa mère il y a des ans où il évoque tout ce qu'elle a fait pour lui. Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série consacrée à l'Afrique australe en quête de changement. Aujourd'hui en Afrique du Sud, les déboires électoraux de l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, mais dont les scandales de corruption ont fini par entamer sa crédibilité et le contraindre surtout à former une coalition avec le parti Alliance Démocratique, avec qui il faut trouver des compromis et surtout répondre à l'urgence sociale. Alors que fera-t-il par exemple des mineurs illégaux?
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Catherine Dutu en parlait avant-hier dans sa revue de presse internationale. Les mineurs illégaux coincés sous terre depuis le mois de novembre dans une mine d'or abandonnée de la ville de Stilfontein au sud-ouest de Johannesburg commencent à remonter lentement de leur captivité de plusieurs semaines. Un tribunal sud-africain a ordonné au gouvernement de payer des professionnels pour organiser la remontée des survivants et les corps de ceux qui sont morts sous terre. Plus de 100 à ce jour. La police les encerclait depuis longtemps pour les arrêter à chaque fois qu'un mineur parvenait à sortir. Qui sont ceux qu'on appelle les Amazama. Bonjour Judith Ayem.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure d'anthropologie à l'Université de Lille et membre du laboratoire Clercé. C'est le centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Alors d'abord, ceux qui sont encore sous terre à ce jour, ces mineurs dont la presse sud-africaine a beaucoup parlé ces derniers temps, est-ce qu'on sait combien sont encore en vie et surtout comment ils ont réussi à survivre pendant ces longues semaines?
Alors, je crois que pour que nos auditeurs comprennent ce qui se passe, il faut sans doute commencer par redonner le contexte de ces mineurs artisanaux de la mine de Stilfontein. En Afrique du Sud, il y a des mines d'or importantes et la ville de Johannesburg, par exemple, a été construite sur l'or. Donc, il y a des filons très extensifs à l'est et à l'ouest de Johannesburg, parmi lesquels celui de Stilfontein. On est dans une mine qui est extrêmement profonde, comme la plupart des filons. On pense que les mineurs étaient à plus de 2 km sous terre. On a les chiffres qui ont été donnés, ont été très divers, mais en tout cas, les communautés locales mobilisées considèrent qu'il y a au moins 109 mineurs décédés au fond. Les estimations ont avancé des chiffres allant jusqu'au millier. Pour l'instant, on n'a pas de clarification sur le nombre de personnes qui sont au fond de la mine encore, mais les opérations sont encore planifiées pour un long moment et je pense qu'on va continuer à voir sortir de nombreux mineurs en très grande difficulté, émaciés, amaigris, au bord de l'épuisement et un certain nombre de corps encore.
Avec des histoires terribles qui commencent à remonter. Alors, on ne sait pas ce qui est de l'ordre des rumeurs ou des réels témoignages, mais pas d'eau potable, ça c'est sûr, pas de nourriture, pas de possibilité d'aérer ces galeries. Des rumeurs de cannibalisme aussi sont parvenues. Il faut imaginer ces mines comme de véritables villes souterraines avec plusieurs niveaux, un labyrinthe de tunnels qui sont reliés entre eux, des panneaux qui indiquent où est les galeries utilisées comme toilettes ou alors celles qui servent de cimetière pour les Amazama. C'est ce qu'un des mineurs a raconté à la BBC. Alors, Judith Ayem, est-ce qu'on sait plus précisément, on parle de mineurs illégaux et vous avez parlé de mineurs artisanaux. Qui sont-ils ces mineurs? D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont sud-africains ou non? Qui les emploie?
Alors, d'abord, j'ai choisi... Oui, alors, Zamazama, ça veut dire ceux qui tentent leur chance en Zoulou. Moi, je fais le choix de parler de mineurs artisanaux pour ne pas, parce que ce sont des mineurs qui travaillent au fond avec une organisation très importante, semblerait-il. Mais l'adjectif illégal employé abondamment par le gouvernement pour insister sur la criminalisation de ces personnes a mené à la situation humanitaire absolument désespérante face à laquelle on est. Et il me semble important de souligner que si tant est qu'ils aient été illégaux avant de l'être, c'était des personnes qui avaient besoin d'un secours. Vous l'avez indiqué, ça faisait 4 mois que la police, dans le cadre d'une vaste opération visant à endiguer justement les nombreuses opérations de personnes descendant dans des mines qui n'étaient plus en activité depuis longtemps, mais qui étaient encore accessibles, était en place. Cette opération, c'est l'opération Vala Mungodi, boucher les trous. Et la police avait pris position à l'entrée aux différents puits de cette mine de Stilfontein. Hein, il y en a plusieurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bras de force qui s'est mis en place. La police souhaitant obliger les mineurs à sortir pour pouvoir les arrêter et les reconduire à la frontière, puisque il semblerait que l'immense majorité d'entre eux soient des mineurs d'origine étrangère. On parle beaucoup de Zimbabwéens, de Mozambiques, d'originaires du Lesotho, mais aussi quelques Sud-Africains, parfois des personnes qui étrangères mais vivant en Afrique du Sud depuis un certain temps déjà. Et ce qui s'est passé, c'est que le puits le plus profond n'avait pas d'accès avec le puits par lequel étaient sortis un certain nombre de mineurs sur les qui avaient été effectivement privés de nourriture et d'eau potable dans une espèce de volonté de les faire sortir à tout prix. Le représentant du gouvernement ANC ayant été jusqu'à parler de les enfumer pour les faire sortir, c'est-à-dire usant d'une tactique visant à déshumaniser ces personnes pour mieux justifier le traitement qui leur était infligé.
Et d'ailleurs, ce sont peut-être eux, hein, ceux qui veulent les criminaliser, comme vous dites, qui parlent de rumeurs, font circuler ces rumeurs de cannibalisme qui déshumanisent encore plus, parce que beaucoup d'autres disent avoir survécu en mangeant du dentifrice. Enfin, il y a plein d'histoires qu'on va finir par comprendre au fur et à mesure. Oui, pardon, Judith Ayem.
Oui, je crois que vous avez raison. En tant qu'anthropologue, je ne nourrirai pas pour l'instant ce qui n'est qu'une rumeur de cannibalisme et qui, à mon avis, comme vous l'avez bien compris, est plutôt une manière de nourrir la rhétorique visant à déshumaniser ces gens et à faire d'eux des gens dangereux. On connaît cette attitude, malheureusement, de l'ANC qui fait un écho assez sinistre avec ce qui avait eu lieu au moment de l'écrasement de la grève des mineurs de Marikana, qui, là aussi, avait d'abord été désignés comme des criminels, comme des gens qui faisaient grève illégalement, comme des gens qui avaient recours à la sorcellerie, en criminalisant le fait qu'ils avaient des armes blanches qui avaient d'abord vocation à invoquer la puissance des ancêtres dans les mouvements de Toi Toi, la manifestation. Il me semble que là, sur l'ensemble des rumeurs, il y en a beaucoup qui contribuent à insuffler l'idée dans la tête dans le plus grand nombre de têtes possible que l'action de la police est légitime.
Et les événements de Marikana auxquels vous faites référence, c'était en 2012, une trentaine de mineurs en grève qui avaient été tués par la police. Alors ces mineurs, des associations humanitaires les ont aidés à se nourrir, leur ont fait descendre des vivres comme ils le pouvaient parce que les conditions étaient difficiles. Et ce sont elles, ces associations, qui ont saisi la justice, parce que c'est un tribunal qui a ordonné au gouvernement d'agir, et c'est pour ça que là on voit une opération de sauvetage en cours. Le gouvernement, lui, jusque-là n'avait rien entrepris pour le sauvetage, et plutôt l'inverse, comme vous nous le disiez. Le discours de l'ANC et de la coalition en général, puisqu'on parle depuis le début de cette émission de cette coalition avec l'Alliance démocratique, quel est le discours sur ce drame et sur l'immigration illégale, puisqu'on a l'impression que le discours est ramené à ce discours-là.
Tout à fait. Alors effectivement, la communauté autour de la mine, et notamment Miners Affected Community United in Action et Lawyers for Human Rights, ont fait un travail très important pour amener des vivres et surtout porter l'action en justice afin qu'une intervention ait lieu. Il y a eu plusieurs mouvements de légaux successifs, d'abord qui ont donné raison aux associations, puis qui ont jugé qu'elles avaient tort de donner de la nourriture aux mineurs. Et il a fallu que le frère d'un des mineurs enfermés sous terre présente une requête à la cour de Pretoria pour que l'ordre soit intimé de mettre en place le nécessaire pour faire sortir les gens avec effectivement des spécialistes pour pouvoir le faire, puisque jusqu'ici, la communauté faisait remonter très difficilement avec des moyens très artisanaux à nouveau, et notamment une grue artisanale qui avait été fabriquée et qui a été démantelée par la police, donc empêchant la sortie. J'en viens à votre question sur la xénophobie, qui est effectivement importante. On a mon sentiment, effectivement, c'est que dans le cadre de cette opération donc de Valaungodi, qui a commencé en décembre 2023, donc qui dure depuis plus d'un an maintenant, les rushs, à chaque fois que la télévision a montré des images, il y avait une insistance très, très forte sur le fait qu'on venait à bout d'une immigration illégale qui jouait sur le bouc émissaire de l'étranger. Effectivement, le gouvernement renchérit sur cette dimension, alors qu'une partie des Sud-Africains, il y a toute une partie des Sud-Africains qui leur emboîtent le pas, il y a une partie des communautés sud-africaines qui, à contrario, insistent sur le fait que ce sont peut-être les gens qui ont des passeports étrangers, mais qui font partie de leur communauté, qui vivent avec eux depuis de nombreuses années. Donc, il y a un clivage à l'échelle de la population. Le discours vise à insister sur la criminalisation de l'extractivité artisanale et sur le fait que ce sont des étrangers qu'ils seraient en train de piller des ressources nationales.
Alors, juste pour conclure, Judith Ayem, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, est-ce qu'il est question aujourd'hui de légiférer pour mieux encadrer l'exploitation des mines, pour replacer aussi cette discussion dans le contexte politique qu'on aborde depuis le début, c'est-à-dire est-ce que cette coalition aujourd'hui a pour désir vraiment et pour projet de réguler cette question-là?
Alors, le syndicat des mineurs, l'ANUM, a saisi le gouvernement en demandant effectivement, et le MK sur la même ligne, donc plutôt l'opposition, sur l'idée qu'il faudrait autoriser l'extraction artisanale en la régissant de manière à ce qu'elle se fasse dans un contexte plus légal et que l'État puisse aussi avoir la main là-dessus. Pour l'instant, c'est à l'État de débat. Il faut bien dire que pour que ces activités de réouverture de mines aient lieu, il y a probablement de la corruption à l'heure actuelle, car sortir de l'or, c'est une chose, le vendre, c'en est une autre. Donc, la discussion va être serrée et n'est pas sans écho avec ce que vos invités ont dit en première partie, c'est-à-dire la vaste corruption qui a envahi l'Afrique du Sud au plus haut sommet de l'État jusqu'à présent. Donc, je ne suis pas en train de dire que... il y a une conjoncture particulière qui a rendu possible, depuis la fin du Covid, la démultiplication de cette extractivité dans des mines abandonnées, et se pose la question effectivement de légiférer à son sujet.
Merci beaucoup Judith Ayem d'avoir été avec nous. Vous avez écrit La figure ouvrière en Afrique du Sud après l'apartheid aux éditions Cartala, et vous travaillez aujourd'hui avec Barbara Morovic sur les enjeux de patrimonialisation contradictoire des mines en Afrique du Sud. Un tout petit mot de conclusion, Thierry Vircoulon. On entendait cette question, l'ANC a été très dure sur les questions migratoires ces derniers temps. Est-ce que c'est aussi parce que l'ANC est également confrontée, comme on le voit en Europe et dans plein de pays partout dans le monde, à des discours qui sur sa... Alors j'allais dire sa droite, mais en fait le MK de Jacob Zuma est plutôt sur sa gauche normalement, politiquement, mais dénonce l'immigration. Donc est-ce que sur plein de questions l'ANC a dû aussi revoir ses discours pour s'adapter au discours ambiant et au discours qu'on entend partout dans le monde?
Elle a revu ses discours et sa politique surtout, puisque au début en 94 ils avaient décidé de supprimer l'obligation de visa pour tous les Africains qui voulaient venir en Afrique du Sud, et ils sont très rapidement revenus sur cette politique. Mais il y a aussi, c'est pas simplement un problème du parti, c'est qu'il y a un sentiment xénophobe très fort dans la population qui s'est développé ces dernières années.
Merci beaucoup Thierry Vircoulon et merci Cécile Perrault. Vous avez tous les deux contribué au numéro de la revue Pouvoir du mois de novembre consacré à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir été avec nous. C'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous commencez, Catherine, avec l'accord sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui est à la une de la presse ce matin. De grandes espérances et de nombreuses inquiétudes.
Face à un accord qui doit encore être validé par le gouvernement israélien, face à un long processus avec une première phase qui prévoit une trêve des dimanches, la libération d'une trentaine d'otages israéliens, un tiers des personnes enlevées par le Hamas, en échange donc d'un millier de prisonniers palestiniens et l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza, comme le précise le journal israélien Yediot Aharonot, journal pour qui les 42 jours à venir dans cette première phase seront déterminants et très éprouvants pour les nerfs. Car l'ambiguïté de l'accord, soulignée par le New York Times et la chaîne qatari Al Jazeera, laisse planer la possibilité d'une reprise des combats d'ici quelques semaines seulement. Espoir ténu, mais espoir quand même chez les familles d'otages israéliens, raconte le quotidien Ma'ariv, scène de liesse à Gaza après 15 mois de bombardements et de souffrances, rappelle le New York Times. Cette joie fait la une du média israélo-palestinien plus 972 et de la chaîne qatari Al Jazeera. Ça fait presque un an et demi qu'on attend ce bonheur. C'est indescriptible, raconte les larmes aux yeux Mahmoud, un Gazaoui déplacé, interrogé par Al Jazeera. Maintenant, dit-il encore, je veux retourner chez moi, dans la ville de Gaza. Un autre Palestinien dit aussi vouloir revenir chez lui, à Beit Hanoun, et revoir sa famille dans le nord de Gaza. Quant à Hanan, une mère de famille, elle espère que ses enfants pourront retourner à l'école et à leur vie d'avant, loin de la souffrance actuelle. Mais deux tiers des bâtiments à Gaza ont été détruits, souligne Al Jazeera, les écoles et les universités hors d'usage. Gaza est en ruine, confirment les quotidiens israéliens Ma'ariv et Yediot Aharonot, qui comparent l'état de l'enclave palestinienne à Hiroshima et Nagasaki après les bombes atomiques. Et puis, avant l'entrée en vigueur de la trêve ce dimanche, les forces israéliennes ont continué à tuer ces dernières heures au moins 82 personnes, selon Al Jazeera. Parmi les dernières victimes figure Ahmed Al-Shawa, surnommé l'ambassadeur du sourire, raconte le média plus 972. Il organisait des spectacles pour les enfants, espérant redonner le sourire à de jeunes Gazaouis déplacés. Plus de 46 000 morts à ce jour, côté palestinien, sans compter les horreurs indicibles sous les décombres de Gaza, alerte le Guardian.
Le premier grand défi consiste à assurer le maintien du cessez-le-feu.
De hauts diplomates occidentaux craignent qu'après cette première phase donc de 42 jours, la guerre ne reprenne, explique la BBC et le New York Times. Les négociations sur la deuxième phase de l'accord visant à libérer les otages restants en échange des Palestiniens emprisonnés et d'un retrait israélien de Gaza doivent débuter 16 jours après l'entrée en vigueur de l'accord. Mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait bien vouloir refaire parler les armes avant, affirme Haaretz, le journal israélien qui a d'ailleurs consacré un podcast à tout ce qui pourrait mal tourner avec l'accord de cessez-le-feu. Crainte partagée par le quotidien Ma'ariv, pour qui les ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, sont prêts à oublier les otages au nom de leur idéologie. Inquiétude jusqu'en Thaïlande, dont 6 ressortissants sont toujours retenus en otage par le Hamas, rappelle le Bangkok Post et The Nation, des ouvriers agricoles pris pour cible par les terroristes le 7 octobre, alors qu'ils travaillaient dans des kibbutz. Pour la BBC, une chose est sûre, le cessez-le-feu ne met pas fin au conflit israélo-palestinien. Toujours aussi amer et insoluble, les conséquences de tant de destruction et de morts se feront sentir pendant au moins une génération.
Un autre conflit à présent, Catherine, la Birmanie.
Où les trafics en tout genre prospèrent dans le chaos de la guerre. Un acteur chinois s'est rendu en Thaïlande pensant aller à un casting, mais il a finalement été enlevé à Bangkok, raconte Thai PBS, la radio publique thaïlandaise, puis emmené dans un centre spécialisé dans les arnaques en ligne. Sa petite amie s'est inquiétée et a lancé un message devenu viral sur les réseaux sociaux. L'acteur a finalement été libéré, raconte le Guardian. Mais par crainte de tomber dans les griffes de cybercriminels en Birmanie, ajoute le New York Times, de nombreux voyageurs chinois annulent leur voyage en Thaïlande, 20 à 30% des vols ainsi annulés, estime Thai PBS. Des centaines de milliers de personnes ont été victimes de trafic dans la région, des victimes venues du monde entier, notamment d'Afrique, d'Amérique du Sud et bien sûr d'Asie, précise le Guardian. Des personnes souvent attirées par la promesse d'un emploi bien rémunéré. Au lieu de cela, elles se retrouvent donc piégées et contraintes à travailler dans ces sites d'arnaque en ligne. Autre trafic dans le chaos de la guerre en Birmanie. Un mafieux japonais, un yakuza, a plaidé coupable à Manhattan, aux États-Unis, pour avoir fait circuler des matières nucléaires enrichies en uranium et en plutonium de qualité militaire, explique la NPR. Il les a fait circuler donc depuis la Birmanie vers d'autres pays, notamment l'Iran. Si vous avez la moindre question ou remarque sur la revue de presse internationale, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous y reviendrons dans la revue interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.